Play ball.
Dugout.
Incroyable!
Oh! Avec Hugo Reich.
Là, j'ai la bonne casquette sur la tête. Fait que là, arrêtez de me roaster sur le fait que j'avais une casquette des Mariners dans l'épisode passé. Bienvenue dans le Dugout, épisode 5. Les Blue Jays sont encore en vie, mesdames et messieurs. Et sont probablement la meilleure compétition des Dodgers cette année. Honnêtement. Marie-France Tastio, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. Jacob La Charité, a.k.a. Charity Man, comment ça va?
Ça va super bien.
Ben ah écoute, je dois te le dire, là.
Dis-moi là, Hugo.
T'as géré, man, dans tes prédictions à date, parce que moi puis Marie, on mettait ça en 5 matchs
vous
pour les
mort.
Dodgers. On est mort. Puis toi, t'es encore là. T'as
j'suis
donné
encore
ça en 6 à Toronto. Comment tu te sens?
Ben, écoute, je sais pas s'ils vont gagner en 6, parce qu'il faut qu'ils gagnent ce soir pour ça. En passant, ouais. On tourne le mercredi.
On tourne le mercredi. Match numéro 5 ce soir. Vous allez l'avoir vendredi. Ça va être le match numéro 6.
Ouais. Mais je me sens quand même confiant. Je pense que après avoir perdu le match de 18 manches, puis d'être revenu d'aplomb, puis gagner le quatrième match, ben tabarouette, je pense que tout peut arriver dans les trois derniers. Puis oui, il pourrait gagner ça en 6. Je veux pas être rabat-joie, il pourrait aussi perdre en 6. Mais tout est possible.
Tout est possible, mais en tout cas, la belle histoire Cendrillon des Blue Jays continue à s'écrire. Toi, tes réactions à froid?
Moi, ça me surprend. La performance des Jays. Je pensais, c'est sûr que sur papier, les Dodgers sont vraiment une meilleure équipe. Mais c'est là qu'on prouve que tout ça joue sur un terrain de baseball entre les deux lignes pendant 9 ou 18 manches. Faut voir que
ouais, un ou deux matchs dans le même match.
Mais je pense que c'est la meilleure compétition que les Dodgers ont eue durant les séries. T'sais, c'est pas un swipe. Ils ont battu en deux matchs, les Reds. Après, ils ont battu en 4.
Ouais, eux autres, ils ont juste fait des blanchissages depuis le début.
Sauf contre les Phillies.
Ouais, Phillies ont perdu un match.
Mais là, ce qui va être intéressant de voir, c'est la première fois dans les séries que les lanceurs des Dodgers lancent deux fois. Fait qu'on va avoir deux fois Blake Snell, on va avoir deux fois Yamamoto.
Ouais.
Comment ils vont réagir? Ça va être vraiment un beau défi pour eux autres. Fait qu'on j'ai bien hâte de voir ça.
Ouais, mettons l'usure, voir comment les bras vont réagir. D'ailleurs, dans ce marathon-là, 18 manches, on a failli avoir Yoshinobu Yamamoto lancé encore. Il est en train de prendre des lancers dans l'enclos.
Ouais.
Quand le match est terminé finalement.
Ça a été incroyable.
Ça a été fou, honnêtement. Puis c'est fou parce que, je sais pas si vous saviez, mais si c'était pas Yamamoto, qui a s'est d'ailleurs prononcé, a été volontaire pour lancer, c'était Miggy Rojas qui allait sa butte. Ça, ouais. C'est quand même très drôle. Mais oui, parlons-en des Blue Jays. Avant de commencer à parler point par point, comment vous pensez que ça va se dérouler pour les deux derniers matchs?
Peut-être trois. Honnêtement, je pense que la série va se définir un peu plus ce soir, après le match de ce soir.
Okay.
Parce qu'on se rappelle qu'on tourne mercredi puis on sort vendredi.
Bien joué.
Merci. J'ai drôlement le goût de dire que si ce soir les Blue Jays perdent, ça va être difficile quand Yamamoto vendredi. Parce que c'est lui qui lance vendredi.
Ouais.
Fait que il faudrait qu'il gagne en soir. Moi, je pense que normalement, il faudrait qu'il gagne en soir pour se donner une chance. À la limite, perdre quand Yamamoto, tu tombes 3-3. Fait que tu tombes à la maison en match 7, c'est quand même intéressant. Mais s'ils perdent en soir, puis là, ils savent qu'ils repognent Yamamoto vendredi, t'as une position aux Dodgers. Fait que je pense que ça va. J'ai difficile à dire qui va gagner. Honnêtement, la série, je trouve que c'est vraiment une série surprenante.
Dis-le, là.
Non, pour vrai, je pourrais pas.
Tu sais pas. Tu sais pas c'est qui va gagner. T'as même pas un hunch, genre.
Non.
Oh boy.
C'est spécial.
C'est décevant, là.
Ben, là, je sais pas.
Je pensais que j'allais avoir un gagnant.
Mais c'est parce qu'ils surprennent tellement les Blue en ce moment. Ils jouent tellement bien. Sa buts sont impressionnants. Bassett qui a lancé hier, qui a sauvé la relève.
Il a vraiment sauvé la relève, là. Bassett, Bassett est super bon, là, en passant, là, depuis le début de la série.
Il a sauvé la relève des Blue Jays hier. Tu sais. Fait que ça donne du repos aux bras qui ont été surutilisés à la game de 18 manches.
Ouais.
Fait que, tu sais, encore là, je pense que ça peut être vraiment surprenant les Blue Jays. C'est que ça, je sais pas trop quel pied danser.
Ça me fait pas
Mais je pense que ça va être une série vraiment enlevante. Ça va se finir en 6 ou en 7. Puis, vraiment la meilleure équipe va gagner, la meilleure équipe sur le terrain et non la meilleure équipe sur papier. Fait que ça, c'est le fun aussi de voir ça.
Ça me fait peur à soi parce que, tu sais, Blake Snell, c'est rare qu'il y ait des mauvaises sorties. On sait que c'est un gamer. On sait que c'est le genre de lanceur qui veut avoir la balle dans les matchs opportuns. On se souvient en 2020 avec l'incident qu'il y avait une cache. Écoute, ça, en tout cas, ça m'a marqué à vie. Honnêtement, puis c'est d'ailleurs ce qui a mené à son départ des Rays de Tampa Bay. Je pense qu'il va vouloir se reprendre. On le sait qu'il y a des, tu sais, il y a des bons changements. Il y a un bon changement de vitesse, il y a une bonne balle courbe, il y a des bons off-speed. Un peu comme Shane Bieber. S'il est capable de bien utiliser ses off-speed, il va être dangereux. On va avoir de la misère à le frapper. Puis de l'autre côté, ben, on a Trey Savage, que lui aussi, là, jeune lanceur. Que franchité des étapes, on va en parler un peu plus loin dans l'épisode, mais crime, t'as encore la balle dans un match 100%. De la Série mondiale, man.
Mais tu sais, il y a eu un bon premier match en Série mondiale, c'était pas son meilleur des séries, mais je pense qu'il a quand même bien performé pour le jeune qui est.
Ouais, deux points dans
ça. Puis là, on va voir comment il va se passer aujourd'hui. C'est là qu'on voit, puis sa split va peut-être être plus intéressante aujourd'hui, on lui souhaite qu'il va pas l'utiliser.
Ouais.
Mais on verra comment ça se déroule là, pour ce match le soir.
Ouais, ça va être super intéressant. T'en penses quoi, toi, de Yesavage hier soir?
Ben, je pense que Yesavage. Un peu comme tu as dit avec Snell, tu sais, Snell, il a eu un moins bon départ contre les Blue Jays au premier match parce qu'il utilisait énormément son changement de vitesse pour aller chercher les retraits sur des prises plus tôt dans les séries. Puis là, les Jays ont sauté dessus. Ouais. Puis même que Kirk a réussi à faire un circuit sur la curve à Snell, qui n'était pas arrivé, je pense, ça faisait plus de 1000 curves que Snell lance avant qu'il y ait un circuit.
Ouais,
là, c'est une stats de fou. Là.
Ouais, ouais, ouais.
Fait si les Jays sont encore capables d'attaquer les balles à effet de Snell, on est good. Ouais. Parce que je pense que sa rapide est bonne. Mais elle est bien complémentée de ses balles à effet. Pour ce qui est de Yesavage, lui, il faut qu'il retrouve sa splitter, c'est essentiel. Parce que là, il s'en est tiré le premier match, mais il l'a quasiment pas lancé. Puis, sa rapide a un peu moins de conviction, mettons, que celle de Snell. Fait que j'ai l'impression que dans un deuxième match, en aussi peu de temps, si sa balle front ne marche pas, les frappeurs des Dodgers vont attaquer sa rapide de manière assez facile.
Je pense que Trey Yesavage est quand même un lanceur qui va trouver des moyens de connaître du succès avec sa front. Je veux dire... sa balle rapide reste quand même qu'elle est lourde. Il ne faut pas oublier que ce gars-là lance de 7 pieds 11 en hauteur de la plaque. C'est quand même assez impressionnant. Puis, il ne faut pas nier ce drop-là de 35 pouces qui est quand même impressionnant. Mais pour vrai, il a accordé 2 points dans le match numéro 1. Il a quand même bien utilisé sa glissante. Il a marché super bien sa glissante. Puis, il a été capable d'avoir les spots qu'il voulait avec. Fait que, honnêtement, chapeau à Trey Savage. Lui aussi, c'est un gamer. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer ce soir. Match numéro 5, ça veut dire aussi que George Springer va pas être dans l'alignement des Blue Jays ce soir.
Ouais.
Par contre, les Jays sont optimistes de peut-être l'avoir vendredi à Toronto.
Ouais.
On semble pas trop être choqué à ce niveau-là. En tout cas, moi, j'ai perçu que l'alignement des Blue Jays, de la profondeur, était capable de produire quelque chose. Puis, tu sais, on a mis Bo Bichette dans le rôle de frappeur désigné. Il a super bien fait, Bo Bichette. Il a mis des balles en jeu tout le match. Il a pas été allumé sur les sentiers, puis ça, on va en reparler. D'ailleurs, Marie, ça l'a vraiment marqué parce qu'elle était vraiment, vraiment fâchée au début de l'épisode. Mais même pas, là, genre en dehors des ondes. Puis d'ailleurs, tu vas revenir là-dessus parce que je te relance directement après ça. George Springer qui est out pour le match numéro 5 qui va peut-être jouer le match numéro 6, comment tu vois ça? Puis après ça, comment tu vois la belle petite bourde à Bo Bichette qui voulait pas revenir au premier but?
Ben, tu sais, ceux qui n'ont pas joué hier non plus, là, George Springer, fait que tu sais, ils sont quand même sorti fort, tu sais, ils gardent des points rapidement. Fait que, est-ce que je suis inquiète? Est-ce que c'est un gros saut des Blue Jays? Oui. Est-ce que je pense que ça fait une différence? Oui et non, dans le sens que Bichette fait bien la job.
Ouais.
Est-ce que, tu sais, défensivement, Falefa fait la job aussi? Fait que, je pense pas que c'est une grosse... Oui, c'est une grosse perte en tant que vétéran de joueur. Je pense que la profondeur que nous, on reçoit... Ben, qu'on reçoit. Que les Jays ont, je pense que ça compense un peu quand même. Ben, c'est sûr que c'est toujours avoir un Springer dans l'alignement, c'est toujours intéressant, toujours important.
Ouais.
Mais avec ce qu'ils ont et ce qu'ils produisent, les Jays, avec les autres joueurs, autant du 1 à 9, je pense... T'sais, on dirait que ça l'impacte un peu moins de ce qu'on aurait pu penser dès le départ des séries, mettons. Là.
Ben, c'est un type de contact qui est complètement différent. T'sais, j'ai le feeling que la défensive des Dodgers, quand c'est George Peña au bâton, va s'attendre à soit un double, quelque chose de loin dans le champ extérieur ou un circuit.
Exact.
Tandis que Bo Bichette est capable d'aller sortir des contacts quand même assez forts sur des balles en dehors de la zone des prises. Il y a un meilleur œil, il y a une meilleure coordination œil-main. Ça paraît donc. Ça avec, c'est un ajustement, veut pas à faire, mais là, tu rentres Kiner Falefa dans l'alignement, même chose, j'ai aussi capable de faire des bons line drive, la balle sort rapidement de son bâton, puis ça fait une différence.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait une différence aussi? Les arbitres sont tardifs pour faire les calls de prise. Par exemple, Mark Wagner hier, qui a coûté un retrait aux Jays et même un point.
Ouais, un point. Un point.
T'en penses quoi de ça, Marie?
Bon. moi, j'appelle ça une horreur. J'aime
une
ça,
horreur.
J'aime ça si bien dire parce que, tu sais, oui, le call était un petit peu plus lent que d'habitude, mais tant que. Oui, puis Varshow, il a quand même fait le mouvement d'intention d'aller vers le premier but. Puis, pour ta confusion, mais tu revois qu'il reste là. Genre, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, mais en même temps, non. Tout le monde t'a mêlé. Parce que Will
oui,
Smith
mais il a quand même. Les vidéos montrent. Oui, ça a dit là, mais il a quand même collé la prise. Varshow, il s'était déjà reviré parce que c'était une balle. Donc, définitivement, c'était une balle.
Ben oui.
Mais il a collé les prises. Je comprends. Mais si tu vois que ton joueur reste là, puis il bouge pas plus que ça, qu'est-ce que tu fais?
Ouais, mais.
Qu'est-ce que tu fais?
Non, mais en même temps, c'est ça. Tu sais, Smith a ramené la balle au lanceur. Ça a pris du temps, là, avant qu'on non, allume puis on amène la balle
c'est
au premier but.
Pas tant... Oui, mais c'est pas tant de temps que ça pour se rendre pas compte qu'il y a call les
effectivement,
prises.
Effectivement.
C'est plus ça mon point.
C'est comme le point de vue, mettons, d'un coureur qui sait pas il y a combien de retraits, puis là, il se fait prendre, puis qui abandonne. Javier Baez l'a fait une coupe ouais. de force à l'intérieur. Et ça, ça m'a démoralisé, puis c'est un de mes joueurs préférés. Mais non, effectivement, je trouve ça un peu cave. Mais en même temps. Après ça, Wagner qui échappe la balle sur un compte de 3-2. C'est une prise, balle rapide, sur le coin extérieur, tu colles rien.
Je sais bien.
Non, mais voyons donc.
C'est juste que, comme à un moment donné,
c'est niaise,
regarde la game.
Wagner, ouais. Tu sais, on est en série mondiale.
Ouais, mais l'être humain, il fait des erreurs. Vous allez me dire,
Bichette aussi fait des erreurs.
Ouais,
mais
là,
comme,
non.
T'es censé avoir des meilleurs arbitres avec le meilleur pourcentage de réussite.
C'est pas le cas.
Il a échappé deux calls. Là. Il a échappé deux gros calls. Là,
puis même, le reste des arbitres, je trouve, pour en série mondiale, pour le moment, ne se ressortent pas du lot en rapport à ce que j'ai regardé de baseball en saison régulière. Là.
Ouais.
Ils sont pas mauvais, là. Genre,
non, non.
C'est pas les pires, mais je trouve pas que c'est la crème de la crème, là. Mais en tout cas, c'est mon point de vue sur les arbitres. Puis pour ce qui est sur la situation de Bichette, ce qui me fait rire, c'est qu'on en parle pas, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec MF. Il a figé, mais ça a tellement été long avant qu'il fasse le rail au premier que si, à la limite,
ben,
il court
ça.
Vers le 2,
ouais,
il se rend au 2,
il a juste pas allumé,
s'il vient au first,
non,
il
mais...
reste au first.
Ouais.
Mais là, il fige. C'est vraiment
ouais, complètement
c'est un brain fart. Là.
Ouais.
C'est
100%.
Mais c'est même, comme tu dis, ça a été long avant que la balle soit lancée au premier. Fait que raison de plus de comme, qu'est-ce que tu fais en plein milieu là, puis tu fais... Puis là, il est de même, puis il attend. Puis il se fait toucher par Freeman. Je suis comme, Big. Tu t'en vas où, man?
C'est la souricière.
Parce que là, je ris parce que...
Tu t'en vas où, mon homme, man?
J'ai coaché avec MF cet été. Puis je sais, elle commence sur des jeux où il y a des joueurs qui freeze, puis ça me fait vraiment rire parce que je t'imagine juste sur Silent, fait « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? »
Ben, c'est plus je fais ça.
Ouais, exact.
Je fais pas « Qu'est-ce que tu fais? » Je regarde, je fais « OK. Ouais. » Bref, parenthèse.
Acting 101 avec MF. Ouais, c'est ça. Puis là, je paye un out, on perd un gros bâton, mais en même temps, on a bien compensé.
Ouais, mais je pense que la seule fois que j'ai racheté sur le bâton de Springer qui est plus là, oui, Bichette le remplace bien, puis ça paraît pas tant qu'il est
ben,
pas
c'est
là.
Pas de la même manière.
Mais l'affaire, c'est que c'est pas une question de remplaçage, c'est qu'idéalement, j'aurais voulu les deux dans le line-up.
Ben,
c'est là où ça fait mal.
C'est
que on retrouve Bichette, puis on perd son bâton de plus parce qu'on perd Springer.
Fait
que l'ajout qui aurait pu être si bon revient. Ben finalement, c'est comme le reste des séries. On a plus Springer, on a Bichette. Fait que, ouais. C'est comme, oui, il est remplacé, ça fait que pas tant de line-up, mais ça serait avoir les deux qui serait tellement positif à l'équipe. En tout cas.
Sauf que tu viens de le dire, ça fait que pas tant de line-up. On est capable d'aller chercher des coups sûrs pareils. Pas de la même manière, pas de la même odeur, pas de la même importance, parce que Springer, il est capable d'amener ça. Mais reste que l'alignement fait la job.
Mais tu sais, je pense à la différence aussi avec les Jays et les Dodgers dans l'alignement des frappeurs, c'est que autant ton premier que des Jays que ton 9 frappé.
Ouais.
Tandis que les Dodgers, c'est des fois c'est le 1 à 5, des fois c'est 5 à 9, des
ouais.
fois c'est. Tu sais, c'est jamais constant. On dirait que c'est comme, bon, aujourd'hui, qui frappe?
Ouais,
dans
c'est ça.
Les Jays,
exact.
C'est. Toutes les games, c'est jamais les mêmes joueurs qui frappent. Si tu vois que tu frappes 2, tu frappes 8. Tu sais, ça. Je pense que ce qui aide beaucoup les Jays en ce moment contre les Dodgers, c'est exactement ça.
Hey, écoute, c'est quoi ça mène à une question que j'ai pour
j'ai
vous?
J'ai une réponse.
Mais c'est sûr que t'as une réponse. T'as une réponse à tout. Est-ce que vous êtes satisfait des gros canons? Des deux alignements, j'étais présent depuis le début de la série mondiale?
Moi, je pense que oui, là.
Des deux bords, là, je parle.
Ben, les Blue Jays, je pense que moi, ça me surprend énormément comment ils sont aussi bons devant les Dodgers. Je pense que peut-être les Dodgers sont une pression aussi d'avoir une adversité autant grande depuis les séries. Parce que je pense pas qu'ils s'entendaient que ce soit autant difficile, la série mondiale.
Ouais.
Sûrement, ils pensaient que ça allait être une balade dans le parc, là. ouais, avec les commentaires de Dave Roberts avant la série mondiale. Fait que moi, je pense que les Dodgers sont quand même surpris la performance des Jays, puis tant mieux. T'sais, je suis dans leur culotte, ben c'est ça qui arrive. Les Dodgers, je pense que, comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui est au même niveau à chaque match. T'sais, une fois, c'est Otani, il a eu une bonne game, là, deux games, mais hier, il était pas... Ben, pas qu'il était pas bon, mais il a pas frappé hier. Ouais. Il a rien fait. Mais Freeman a frappé. Tu sais, comme... On dirait que eux autres, c'est une game sur deux que les canons ils frappent, tandis que dans les Jays, il y en a toujours un ou deux qui frappent, ça roule. T'sais, fait...
Écoute, je suis d'accord avec tous les points que t'amènes, honnêtement. Mais j'ai pas de réponse à ma question.
Ben, si j'ai répondu à ta question.
Fait que t'es pas satisfaite?
Ben, j'ai dit les Blue Jays, oui.
Les Blue Jays, oui, mais les Dodgers, non.
Mais les Dodgers, je suis ambigu, genre.
Ambigu, OK.
Ben, j'ai répondu à ta question, mais t'as juste pas écouté. Prochain appel. Vas-y,
Jack.
Ben, moi, je pense que, un peu comme MF a dit, les gros canons des Blue Jays répondent, puis l'affaire, c'est qu'on l'a vu en série. Dans le fond, t'en as un gros canon, c'est Vladdy, puis Adat, il répond. Ouais. Le reste des 8 joueurs dans ton alignement, c'est... du on and off, mais qui produisent au bon moment.
Mais c'est qui tes gros canons dans ton alignement? C'est Vladdy, c'est Ernie Clement. Moi,
tu peux pas. C'est rien contre Ernie, je l'adore, là. Mais tu peux pas compter Ernie Clement comme un gros canon.
Mais en série, en ce moment, oui, là.
Ouais, ouais, mais.
Frappe au-dessus de 400, guys.
Ouais, non, je sais, mais je trouve que quand même, de me dire. Tu sais, mettons, je regarde l'alignement des Blues, je me dis, ah oui, mon gros canon, Ernie Clement.
C'est pas Ernie Clement. OK.
Mais
en ce moment, oui.
Il performe autant qu'un Mookie Betts ou qu'un Freeman, qui techniquement c'est un gros canon au ball. C'est fait.
Mais tu sais, mettons, genre à George Springer, à Vladdy, à Bo Bichette.
Mm-hmm.
Mettons. Dalton Varsho va compter là-dedans.
Ouais, Varsho compte.
Est-ce que vous êtes satisfait du rendement 100%. De
saison? Oui. Okay. Oui.
Mais ça, j'ai dit tantôt, pourquoi tu m'écoutes pas quand tu
parles? J'écoute quand vous parlez, mais c'est ça. Ok, on relance la question, parfait. Mais puis,
pour, du côté des Dodgers.
Ouais, du côté des Dodgers.
Là, non. Je veux dire, tu balles Otani 5 fois dans un match, puis Betts ne répond jamais à l'appel.
Mais non, jamais.
C'est fou. Puis oui, ok, Freeman a libéré tout le monde et a permis tout le monde d'aller se coucher en 18e.
Ouais, mais à part ça.
Mais à part ça, il fait rien.
Non.
Puis l'autre affaire, par exemple, je voulais aller regarder. Le line-up des Dodgers est sorti. Andy Pice, il était tout le temps qu'il soit benché. Là, je veux dire, ses présences au bâton, c'est dans les pires présences que j'ai vues depuis longtemps. Là. Il manque de confiance, il se bat pas.
Non.
Il se fait se retirer sur des prises. Fait que là, ce soir, Kiké va jouer au champ-centre.
OK, bien joué.
Il joue partout. Là,
mais Kiké,
Kiké.
Puis Alex Cole va prendre la place dans le champ gauche.
Alex Cole qui a eu quand même un gros contact là, pour finir le match hier. Il mérite sa place. Ça a été une acquisition quand même importante pour les Dodgers cette année, Alex Cole. Un joueur d'utilité qui répond à l'appel.
Voilà.
Mm-hmm.
Alex Cole. Bon Alex Cole.
OK. Sur ce, j'ai une petite théorie de lanceur pour vous. Que je voulais vous lancer pour le match numéro 6 et 7, advenant le cas.
Mais c'est sûr qu'il y a un 6.
6, oui. 7 aussi. Advenant le cas, qu'il y a un 7.
OK, advenant le cas.
OK, c'était pas clair. Okay.
Ouais, advenant le cas, qu'il y a un 7. Est-ce que vous pensez que les gérants vont faire du 50-50 avec des lanceurs partant?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais,
pour les lanceurs.
Qu'est-ce que ça veut
dire? Tu vas avoir un lanceur, tu sais, là, ça va être Gesavitch, probablement que le prochain va être Gausman.
Ouais, c'était Gausman, ouais.
Ouais, Gausman. Mais là, est-ce qu'on va, mettons, laisser Gausman pour la moitié d'un match ou un genre de 4-5 manches? Puis après ça, on va.
Pourquoi?
Amener un autre starter en relève?
Pourquoi?
Je pense que je sais
parce que t'as plus rien à perdre.
C'est quoi son point de vue là-dessus?
Pourquoi?
Mais parce que t'as plus rien à perdre. Tu sais, je veux dire, si tu utilises tes bras, mettons plus match numéro 7, en fait. Parce que
le match numéro 6, je m'en fous.
Parce que le match numéro 6, tu vas avoir un plan avec tes releveurs, t'as pas le choix.
Ben, ça dépend. Si t'es l'équipe qui.
Ouais, c'est
qui ça. Si t'es l'équipe. Je mets mon chapeau de coach. Si t'es l'équipe.
Il est Jamie.
Ah, oh, ok, excuse. Bon. Mettons que je suis les Jays, puis je perds la série 3-2 au 6e match. Ouais, c'est ça. Je vais vouloir gagner. Fait que ma relève, ça peut être n'importe qui. Puis j'arrive au match 7. Ben, je mets ce qui me reste.
C'est ton do or die.
Exactement. Mais à l'inverse. Si je t'en avance dans la série, oui, ça serait fun de finir la game en 7, mais je vais pas accélérer mes lanceurs partant dans la game 6.
Ouais.
OK.
Parce que j'ai quand même un 7, puis j'aime mieux avoir un match 7 avec un bon lanceur partant qu'avoir des bras à mocher parce qu'ils ont lancé la veille.
Je comprends ce que tu veux dire.
J'espère que tu comprends.
J'ai ta marouille, OK. C'est beau. Je comprends ce que tu veux dire. Par contre, tu sais, l'avantage, ça, mettons, c'est pas ta rotation sur deux matchs. tu peux utiliser, mettons, selon moi, un lanceur partant qui peut être quand même bénéfique dans un must win, genre. Ça, mettons, tu veux closer le deal, t'es en avance, là. Vas-y, man, vas-y avec un partant, puis au pire, finis avec un roll
war. Ouais, mais si tu perds.
Ou l'inverse.
Si tu perds, tu fais quoi?
Si t'arrives dans le match, puis tu perds, puis t'es le Blue Jays.
Mettons, t'es le Blue Jays, puis tu mènes la série.
Ok, fait que t'arrives à Toronto, t'es 3-2.
Ok. Fait que tu fais lancer, on m'a dit, c'est qui on a dit, Gossman?
Ben là, ça va être Gossman. Ça va être Gossman. Ok,
mettons Gossman lance, après on sort chez eux. Là, j'exagère, j'extrapole.
Ouais.
Je sors chez eux, puis je sors Bieber. On s'entend que j'extrapole.
Ça va jamais arriver, mais oui.
Non, mais mettons. Là.
Ouais. Pourquoi pas?
Ok, mais.
Mais si tu mènes, non.
Mais.
Si tu mènes à la série, puis toi, t'arrêtes de me dire que tu sortais ces lanceurs-là en game 6.
Mais si ça, mettons, t'as l'avance dans le match.
Mais pourquoi?
Tu veux fermer la porte.
OK. Fait que si, mettons, OK, mais mettons que tu y remontes, tu fais quoi pour ton game set?
OK, mais OK. Je pense que t'es en train de mal comprendre mon point.
Non, absolument
pas. Tu mets pas juste des lanceurs partant.
Non, mais tu trouves que t'en gaspilles quand même. C'est là que je pense que
le point.
C'est là que je pense que le point MF est bon. Puis je suis d'accord avec elle. C'est que le match numéro 6, que tu mènes la série ou pas, tu peux pas brûler Bieber ou Scherzer en relève.
Voilà.
Parce que si tu joues le match numéro 7, t'as besoin d'un, si c'est pas l'autre.
T'as pas Bieber, t'as pas...
Ben, okay, tu vas les avoir, mais ils vont être fatigués.
Ouais, ils vont être fatigués.
Tu comprends ce que je veux dire?
Ben oui.
C'est l'avantage de pouvoir mener la série et te dire, OK, mettons, je change, exemple, je sors... on a dit là, déjà son nom.
Scherzer, Bieber, whatever.
Peu importe.
Ouais.
J'ai l'avantage d'avoir une game de plus, on va dire, de coussin, c'est dit de même, c'est un peu exagéré, mais
ouais.
J'ai l'avantage de pouvoir jouer un game set puis avoir dans ça. Tu sais, probablement que les Dodgers, mettons, qui perdent la série, là, ils vont faire du do or die. Fait
ouais,
qu'ils vont arriver la game set. Fait que tu vas avoir l'avantage sur l'équipe parce que t'as des lanceurs frais, on va dire frais, là.
J'adore ça.
Frais et dispo, là, mettons.
Ouais. J'aime ça.
Tandis
parce que juste l'avocat du diable en ce moment.
J'adore ça. L'inverse,
ouais.
Si tu sors tes meilleurs lanceurs, même t'es partant dans la game 6, t'arrives en game 7. T'as pas autant l'avantage que les Dodgers, ça va être égal. Fait que
100%,
là,
parce que les Dodgers, si t'es en avance dans un match numéro 6, tu dois gagner.
On s'entend en plus que la relève des Dodgers n'est pas très bonne.
Elle n'est pas bonne.
Bon, raison de plus de te dire qu'en game 7, tu vas avoir tes bons lanceurs en relève et un bon partant.
Je suis d'accord.
T'es tellement que tu es d'accord?
Maintenant!
Attends, je peux juste rajouter quelque chose.
Ok, vas-y vite. Parce que moi, j'ai quelque chose pour contrer un peu ça.
Mais je me dis, regarde. Parce que là, on tu sais, évidemment que le match numéro 6, tu veux finir cela. Mais
100%.
Si tu faut quand même que tu aies en tête que ça peut aller en 7, OK?
Faut que tu aies en tête que oui, je suis d'accord.
Ouais, mais attends. Fait que là, mettons le Gossman match numéro 6 contre Yamamoto, right? Peu importe l'issue du match, si tu as utilisé Scherzer ou Bieber en relève à Gossman,
ça veut
dire que un match numéro 7, tu as soit Scherzer ou Bieber qui viendrait comme partant.
Ouais.
T'as aucun autre partant pour venir combler ça.
Non.
Fait que tu te retrouves avec ton...
Sauf que...
En troisième manche, t'as utilisé un Brandon Little ou un Fluarty trop ou un Volant de trop. Parce que c'est pour ça que dans ma tête, en game numéro 7, ça te prend Bieber et Scherzer frais. Pour moi,
Je suis d'accord. Tu sais, il y a une gestion de lanceur à faire là-dedans. Moi, je suis pas en train de dire « Hey, on garoche tous les yeux fermés puis on y va de même pour les prochains lanceurs. » L'argument que je voulais amener en 2014, souvenez-vous bien,
oui.
C'était... Les Giants qui ont gagné la série mondiale face à qui? Les Royals de Kansas City.
Oui,
okay.
Royal Ball.
Bruce Bochy, qui était le gérant des Giants.
Oui.
Match numéro 5, match numéro 6, match numéro 7, a amené Madison Bumgarner de 7 à 9.
Ouais, ça je m'en rappelle.
OK. Mon point est que si t'as une gestion des lanceurs quand même assez adéquate, si tu sais c'est quoi, mettons, le rôle de tes lanceurs par rapport au match que tu dois gagner, c'est important, selon moi, d'amener un lanceur qui peut aller loin. Je donne un exemple.
Oui.
Mettons, Bassett, en ce moment, il a un beau rôle de releveur,
ouais.
Qui est dans les séries, mais on s'entend, c'est comme un lanceur partant, puis ça peut, il peut t'amener des manches. Admettons, t'as un match numéro 6, t'es en avance.
Ouais.
Je suis d'accord avec ton point que tu veux garder Max Scherzer, tu veux garder Shane Bieber pour le match numéro 7, si jamais il y a quoi. Par contre, pis ça en est un, là, dans tout ce que je dis, mais tu sais, un Trey et Savage qui a peut-être lancé la veille, vous comprenez mon point, ça pourrait être quand même utile pour une manche.
Oui, ouais, dans cette optique-là, mais c'est de
là, voir. Ça pourrait être quand même utile pour
c'est
une manche.
C'est de voir aussi comment les bras y vont. C'est sûr que là, ils vont vouloir tout lancer, puis on est d'accord.
Sûr. Mais tu sais, les gars avec le plus de guts qui ont été le plus en contrôle, qui ont le plus de hang, tu gardes ça pour ton set. Bon, ça, je suis d'accord.
Mon seul point pour... contredire ton point de Madison Bumgarner. Puis je pense que t'as raison. Ah, by the way, juste petite parenthèse, super bon move de Bauchy dans le temps. Là, je veux dire,
mais c'est que je vais juste faire l'avocat de 10 ans.
Mais c'est que je trouve que les Jays n'ont pas de Madison Bumgarner à amener en, de 7 à 9.
Je suis d'accord. T'as pas ton shutdown. T'as pas ton Sasaki qui est dans le jeu.
Non, exact. Ah, c'est ça.
Ouais, ça, je suis d'accord. Avec toi. Puis c'est là que la gestion est importante. Mais c'était juste un point que je lançais.
Mais
j'aime vraiment le débat.
Je pense que. Au niveau des lanceurs, les Jets ont un avantage sur les Dodgers à cause de 18 manches parce que Bassett a sorti une grosse sortie hier, puis il a sauvé les meubles.
Ouais, exact.
Fait que je pense qu'à long terme, si on s'en va en 7, Dodgers ont l'avantage. Les Jets ont l'avantage.
Ouais, sur un must win, mettons, t'as l'avantage de sortir un starter que t'as pas, mettons, avec les Dodgers. Bon, j'aime ça. C'était vraiment juste mon point hier, j'ai aimé. Ça le semait un peu la zizanie. Je connais mon baseball, faites-vous-en pas. C'était vraiment juste des questions.
Mais non, mais c'était quand même. Ça se valait comme point.
Là, on va parler un peu des underdogs chez les Blue Jays parce qu'il y en a. J'ai parlé des grosses têtes tantôt, j'ai parlé d'Ernie Clement. Mais pour mes détracteurs qui vont dire qu'Ernie Clement fait partie des underdogs, je suis quand même d'accord aussi. Il frappe au-dessus de 400. C'est pas un retrait facile. En fait, c'est quasiment pas un retrait, ce gars-là. Il y a un bon QI baseball. On l'a vu au match numéro 4 à slider pour aller chercher un coup sûr dans le champ intérieur. Malade.
Voler peut-être un coup sûr?
Ouais, il a volé un coup sûr, c'est ça, pour aller chercher. Pour aller chercher le coup sûr. C'est ça.
Pour ça.
C'est ça. J'ai dit ça trois fois. Mais il y a un gars que je voulais parler, en fait, que MF, t'as toujours eu des bons mots depuis le début du podcast, c'est Andrés Jiménez, qui a encore frappé un coup sûr super important sur une bonne présence au bâton.
Ouais. Je pense que c'est un joueur que. Juste aller chercher pour sa défensive. Il y a des gold gloves, puis on sait très bien ce qu'il peut amener défensivement. Puis il n'y a pas une saison. On savait qu'au niveau du bâton, c'était pas un frappeur d'excellence. Il y a des bons at-bats. Je pense qu'il peut amener du baseball game, là, du small ball, qu'on appelle petit jeu de baseball avec des bonnes choses comme ça. Mais est-ce qu'on aurait pensé qu'il allait prendre le chapeau puis se relever en l'absence de Bichette défensivement puis offensivement? Non. Je pense que c'est un joueur KJ, je pense qu'il surprend un peu plus. Je pense que. Il y a beaucoup de monde, quand ils l'ont signé, ils disaient « Ah, oh, ben là, c'est pas un gros frappeur, blablabla. Bla, » bla. Puis aujourd'hui, dans la série, je pense qu'il était indispensable aux Jays. Mm-hmm. Autant défensivement qu'offensivement. Puis, je veux dire, un des moves que j'ai le plus aimé de Schneider, c'est pas tasser Jiménez de la réco. Il l'a gardé au shirt, même avec l'arrivée de Bobichette. Ça prouve qu'ils ont confiance à lui à 100%. Puis au bat, il est là, il est intelligent au bâton, il fait des bons at-bats, des coups sûrs en porteur, des circuits que comme il mesure, il est pas grand le bonhomme, là. Mm-hmm. Pas grand, pas gros, puis il a des bons at-bats, il me garde la mettre dehors. Fait, je pense un joueur qu'il était souvent sous-estimé pour son bâton, puis là, seulement, il prouve l'inverse là, là-dessus.
Mais, puis ouais, j'étais d'accord avec toi, puis tu sais, ben en fait, il exécute exactement, c'était le rôle d'un 9e frappeur dans la
ligue. Exactement. Ouais, il garde de ramener le en haut, puis tu sais, c'est que ce soit par un but sur balle, par un bun, par un coup sûr. Il est capable de ramener le line-up vers le haut, puis ça passe souvent des manches de même. Là.
C'est une boîte à surprise, ce gars-là, puis il a des bons contacts, puis il est créatif aussi. C'est ça que j'aime. Ses mains sont super rapides. Puis honnêtement, c'est vraiment un agent important. Je pense que. Je pense pas qu'il aurait cru chez les Blue Jays que Andrés Jiménez aurait amené autant. Il aurait amené beaucoup défensivement.
Défensivement, il aurait amené.
C'était un problème l'an passé, la défensive chez les Blue Jays. Donc, c'était important de l'avoir.
Parce qu'il a amené une bonne stabilité défensivement.
Exactement.
Je pense qu'avec l'absence de Bichette à l'arrêt-court, puis même si je vais répéter toujours que c'est pas un arrêt-court, Bichette, puis il a pris la place d'un arrêt-court que peut-être personne pensait qu'il allait avoir.
Mm-hmm.
Fait que je pense que c'est vraiment un atout important pour les Jays là, cette année-là. Puis je pense que c'est une bonne signature. Même au début, il y en a beaucoup qui chialaient qu'ils l'ont échangé pour beaucoup. Puis, ils l'ont signé à la fin aussi. Fait que, moi, je pense que c'est une belle acquisition. Là, pour
moi aussi. Puis, j'ai une question pour vous parce que là, tu sais, je pense que le casse-tête est quand même en train de se faire, là, tu sais, par rapport aux performances de l'alignement des Jays en ce moment défensivement. Est-ce que Ernie Clement devrait être le joueur de troisième but à temps plein chez les Blue Jays?
Ben, la seule affaire qui me fait hésiter sur ce point-là, c'est plus le fait que moi, je pense que c'est. Tu sais, dans un alignement idéal, là, Barger qui revient au 3, puis Clement qui irait à l'arrêt-court, un Bichette qui serait frappeur désigné. Un Jiménez à l'arrêt-court, un Clement au 2. Puis là, le problème, c'est que Springer peut pas jouer dans le champ, fait qu'on se retrouve avec deux joueurs qui seraient DH. Mais je pense que Barger, je préfère avoir Barger au 3, parce que je l'aime dans le champ avec son bras, là, je veux dire, quel relais qu'il a fait dans
le canon, depuis 99 km/h.
C'est incroyable. Mais son, il est quand même pas un très gros range. Fait,
non.
Fait que je trouve que ce serait mieux de l'avoir au 3, alors que Clément, mais je l'adore au 3, mais c'est que ce gars-là, depuis toujours, il fait ça jouer partout. Mm-hmm. Fait que de le caser une position, ça peut être bon si le reste de tes positions sont remplies de joueurs que tu te dis, ouais. OK, Barger, c'est un champ droit. Imena, c'est mon arrêt-con. Mais là, Clément, je préfère le garder comme. C'est comme ma police d'assurance.
Ah, Clément a même joué des manches au premier
but. Ah ouais, il a joué partout. Ouais. Là.
Mais tu sais, Barger, ça peut être un joueur qu'on peut rapatrier, dans, on peut mettre en gauche. Donc, ouais, tu sais qu'il est moins mobile, puis tu avais un. Là, Santander, on sait pas comment qu'il va revenir aussi.
Santander, ça, c'est.
Mais Santander en santé, tu le mets dans la droite, tu mets un Barger dans la gauche. Je pense qu'on peut garder un Clément au 3. Peut-être, tu sais, comme tu dis, c'est sûr que c'est un utility player, un joueur d'utilité. Mais ouais. Il fait pas mal la job, fait que je vois pas vraiment où le problème nécessairement. Là,
ouais, puis tu sais, venant le club, mettons, mais c'est ça. Puis après ça, tu fais quoi avec genre des Joey Loperfido ou puis des Davis mais, Schneider, tu sais?
Je pense qu'un gars que, ben, premièrement, Davis Schneider, c'est contre les gauchers, son utilité clairement. Là. De la manière que John Schneider le voit en tout cas, là, il le voit bon contre les gauchers puis contre les droitiers. C'est un platoon, là. C'est un peu ton platoon de Lucas présentement. Puis,
ça en est un Nathan Lucas qu'on n'a pas parlé aussi, qui est super important en ce moment.
Si tu demandais à un gars comme Loperfido, ben je pense que c'est plus saisir l'occasion, là, un peu comme tous les jeunes. Quand t'as pas une place faite dans le line-up, mais que t'as un jeune qui pousse, ben si ses performances sont là, il va creuser lui-même son spot dans le line-up. Là.
Sans bon
sens. Fait que tu sais, pour le moment, je pense que ça vaut pas la peine d'y faire un poste. Et lui, je dis lui, mais je parle de lui comme étant un jeune. Fait que peu importe les jeunes que tu verrais dans cet alignement-là, mais. Ils vont se les faire les postes quand ils vont avoir. T'sais, si Santander ne revient pas autant en force, ouais, okay, ben peut-être qu'un Loperfido va être plus là.
Les Jays ont la chance d'avoir une belle rotation, mettons, défensivement. Là.
Ouais.
Puis on n'en a pas parlé, mais comme. On peut-tu parler des deux Bayside de Nathan Lucas?
Ben oui.
Ce gars-là est incroyable, là, honnêtement. Parmi toutes les présences des joueurs des Jays en ce moment face aux lanceurs des Dodgers, je trouve que c'est celui qui tire le maximum de. Toutes ses présences. Il va avoir tellement de lancers, genre entre 5 et 7 lancers par présence. Ça sera soit un but sur balle, soit un coup sûr. Écoute, c'est chiant là, pour les lanceurs des Dodgers, puis il fait super bien sa job honnêtement. Nathan Lucas m'impressionne beaucoup parce que lui, c'est un gars qui a fait son temps. Écoute, 10 ans dans les mineurs avant de finalement avoir un poste régulier dans les majeurs. Bravo à lui.
Puis je pense qu'un autre gars que je veux juste donner un peu d'amour là. Dans ce match de 18 manches, puis il a été bon pour les Jays, puis c'est une des raisons pour laquelle on finit premier. Mais Eric Lauer, là, 4 points de manche en relève, de la 14e à la 18e, dans le fond, allant à la 17e, parce qu'on est les tours. C'est fou. Genre, le gars a quasiment pas lancé des séries, mais il se fait dire « Ah, on te met là ». Il lance 78 pitches. Puis il a fait la job.
Eric Lauer.
C'est fou. C'est un gars qu'on a pris ses waivers au début. Ses waivers. C'est un gars qu'on a signé un contrat de ligue mineure au début de l'année.
Ouais, c'est un gars de Milwaukee qui allait nulle part.
Alors, il a joué avec San Diego, puis Milwaukee. Ça allait nulle part. Il n'a jamais eu de succès. Puis crème, il y a eu une vingtaine de départs avec les Jays. Puis il a été excellent dans la rotation. Dans le bullpen, il fait une job. C'est fou, le fou.
Il a fait une job exceptionnelle, honnêtement. Là. Chapeau à lui. C'est vraiment son année. On va se le dire. C'est l'année d'Eric Lauer cette année. Toutes les opportunités qu'il a, il les prend. Il part de loin, puis il saisit ses moments. Parlant de partir de loin.
Vas-y.
En avril, là, il était où, Trey Savage?
Dans le A.
Le faible.
A faible.
Il était dans le A faible. Maintenant, il va lancer match 5. Après avoir quoi? Lancer le premier match de la série mondiale.
Ouais.
Passer à travers tous les rangs. Et ce gars-là, man... Il m'impressionne tellement, là, genre, on dirait que les mots m'échappent pour comprendre la situation de ce lanceur-là. Mais je peux te confirmer une chose, sa sélection, on en avait parlé dès qu'il avait été sélectionné, qu'il allait être solide, mais je pense que personne ne s'attendait à une ascension aussi rapide, honnêtement.
Surtout un lanceur, là, c'est sûr qu'il y a des post-nicks, ça a été rapidement dans les bigs, des choses de même, mais un joueur comme ça qui arrive du off faible,
qui a
tout fait jusqu'au bout... Je pense que le travail, c'est là que tu vois le travail paye, de où tu viens, comment tu travailles fort. Tu sais, on le dit tout le temps, les meilleurs athlètes peuvent se rendre loin, mais ceux qui sont le plus travaillants, même si t'es moins bon que les autres, vont encore plus loin. Fait que je pense que c'est un exemple parfait là, de lui, là, en fait. Là.
Je l'adore, man. Tu sais, j'ai parlé de Clement, là, comme Jersey. Là.
Mm-hmm.
Je pense qu'il y a une couple de Yes Savage qui se vendent pas.
Ah ouais, c'est clair. Ouais,
c'est sûr. Au magasin des Blue Jays, là, honnêtement.
Non, puis tu sais, je pense que Yes Savage, c'est fou parce qu'on parle souvent des rangs mineurs. Tu sais, il y a comme le A puis le A fort.
Un A peu fort, A faible,
Tu sais, il y a un petit peu moins de niveau, mettons. Mais là, après ça, le A fort et le 2A, c'est là où c'est connu pour être la grosse marche.
Ouais.
Lui, il a
step. Il a passé, man.
Je dis, il y a eu un premier départ dans le 2A, un peu plus dur.
Mm.
C'est tout. Il a été dominé après. Il dit, OK, ben, on va te monter dans le 3A parce qu'on pourrait peut-être t'utiliser en fin d'année, peut-être.
Ouais.
Premier départ au 3, il en arrache.
Ouais.
Il s'en fout. Il revient. 4 départs solides. Puis là, les Jays avaient comme plus le choix.
Mm.
Ils le ramènent. C'est comme une histoire de. C'est un prospect qui avait quand même des attentes. C'est à peu près le seul.
Ben, c'était le meilleur choix. C'est le meilleur choix des Jays.
L'affaire, c'est que, surtout présentement, si tu regardes le prospect pool des Blue Jays, ils n'ont pas beaucoup de bons prospects lanceurs. Le seul qui est là, c'est Ricky Tiedemann, mais ça fait 2 ans qu'il est blessé, quasiment, qu'il joue quasiment pas. Le grand gaucher. Fait que là, ça mettait de la pression sur Ian Savage. Puis non seulement il a pris cette pression-là, en un an, il a fait toutes les mineurs. Il
même, pas un, même pas un an.
Ouais, même pas un an.
Même pas un an, une couple de mois, c'est fou, raide. D'ailleurs. Fin intéressant sur Trey Savage, c'était très drôle. Match numéro 1, il a retiré sur des prises Shohei Ohtani à plusieurs reprises, 2 fois. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était drôle.
Son argent, là?
Non, son aura farming. C'est du gros aura farming quand tu retires Shohei Ohtani sur des prises, puis que tu portes ses souliers.
Non, ça c'est vrai. Ouais, il porte ses souliers. Ouais,
il porte les New Balance de Shohei Ohtani et ça me fait tellement rire. J'ai vu ça passer.
C'est vrai que nous, sur les portes. Hein.
Oui, ils sont très beaux d'ailleurs. Je les adore. Ils sont pas pareils, mais ils sont pareils.
Ouais.
Bref, tout est dans les looks. Tout est dans les looks. Autre affaire, fait inusité, très drôle. Vous connaissez l'artiste country Brad Paisley?
Oui. Ok. Ben oui.
T'as dit quelque chose, Brad Paisley?
Ben, c'est pas dans mes.
Je pense qu'il a été juge à genre X Factor ou.
Bon, ça se peut, mais c'est pas lui que j'écoute, mettons.
Brad Paisley, c'est lui qui a chanté l'hymne national du match numéro 3. Ok, voilà, ça c'est dit, c'est fait.
Vas-y.
C'est un fait.
Qu'est-ce qui s'est passé au match numéro 3?
18 manches.
18 manches. Brad Paisley a chanté l'hymne national lors de la série mondiale. Là, je sais plus c'est quoi le numéro du match.
Moi non plus.
En 2018, entre les Dodgers et les Red Sox. Qu'est-ce qui s'est passé?
18 manches.
18 manches! Brad Paisley ne peut plus chanter le national lors de la série mondiale.
Il a lancé 2 autres fois en série mondiale. Là, je me souviens plus du
chanter,
tweet.
Chanter peut-être?
Ouais, chanter.
T'as dit quoi?
T'as dit lancer.
Ah, mais il a pas lancé.
Rendu à 18 manches, j'aurais pu embarquer sa
butte.
Il aurait
été aussi bon que Mickey Rowe. Mais ça, pour dire que il a lancé. Colin, il a chanté 2 autres fois en série mondiale dans les 10 dernières années. 2 autres fois, match de 10 manches, match de 11 manches. Il a chanté 4 fois en série. Clairement, 4 matchs s'en vont pour le garçon. Ah ouais. C'est quoi la joke?
Clairement, les dieux du baseball aiment sa voix et
ça, doit être ça.
Ça les motive. Bref, je sais pas, c'est très très drôle. Guys, on peut pas finir l'épisode sans parler spécifiquement des Dodgers. Honnêtement, on s'attendait pas à une compétition aussi serrée. Ça, on l'a dit en début d'émission. Les gros canons sont pas là, mais genre...
Ben, ils sont là, mais ils sont comme... On dirait qu'ils se donnent la tape une game sur 2.
Ouais, ben, c'est ça, ils sont comme en rotation. OK, là,
c'est qui aujourd'hui, qui bon okay, c'est ouais.
On en a parlé un peu plus tôt, mais moi, honnêtement, je suis sincèrement déçu des performances de Mookie Betts.
C'est fou.
Parce que Mookie Betts, et là, rappelez-moi, c'est sur le coup sur le tee, je pense que c'était Jimenez au match numéro 4, où ça... Non, c'était pas Jimenez, parce que Jimenez, ça a traversé avant-champ. Il y a un roulant là qu'on dirait qu'il était à un demi-pouce de l'avoir. Selon moi, est-ce que c'est son manque d'inexpérience justement à l'arrêt court dans les majeurs qui fait en sorte que
ça se peut aussi.
Son range.
Ouais, moi je pense que c'est plus un voltigeur là, qui bête. C'est sûr qu'il peut jouer partout, fait que c'est comme un avantage. Puis tu sais, il fait super bien la job à l'arrêt court, là. C'est pas ça qu'on dit là.
Non, non, c'est un athlète, ce gars-là. C'est un athlète. Il est super bon.
Mais en série, je ne pense pas que c'est la position qu'il devrait être.
Non.
Dû par son expérience, parce que oui, tu sais, oui, il a joué comme un stretch fin de saison à l'arrêt court, puis tu sais, il a comme. Mais il n'y a pas cette expérience pour être là à ce niveau. Ben, à ce niveau-là. À ce stage-là, au niveau de la série mondiale.
De manière aussi récurrente, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, l'an passé, Dave Roberts l'avait parti à l'arrêt court pour commencer la saison. Puis environ. Tu sais, il a eu sa blessure, puis en revenant de sa blessure, il fait tu sais quoi, retourne en droite, comme c'est là que t'es bon. Puis finalement, les Dodgers avaient fini avec Mookie dans droite. Ça avait bien été. D'ailleurs, on se souvient de l'incident avec les fans des Yankees sur la fausse balle. Mais là, on dirait que Robert, cette année, a juste décidé de faire « Bon, là, tu sais quoi, m'a assumé ma décision. Tu joues à l'arrêt court toute l'année. »
Mais tu sais, il est super bon. C'est pour ça qu'on dit, mais je pense juste qu'il manque un peu d'expérience à l'arrêt court.
Oui, absolument. Puis
tu sais, pourquoi pas un kiki?
Ouais, Titié peut jouer partout. Mais Titié, c'est une bonne fiabilité dans le champ. Genre, t'as besoin de lui.
Mais tu sais, c'est ça qui me ferait, moi, c'est plus ça, c'est que. Tu sais, Betts a peut-être manque d'expérience justement à la recours. Mettre un gars comme Kiki Hernandez au champ centre, ça, c'est pas dérangeant. Je suis comme, ben, t'as la chance d'avoir un Gold Glover, un gars qui est incroyable dans la droite en Mookie Betts. Il est nominé cette année pour gagner Gandor à la recours. Là. Il l'est.
Ouais.
Mais c'est un des meilleurs joueurs de champ présentement dans MLB. Puis t'as la chance d'avoir un Kiki justement qui lui peut jouer un peu partout. Puis semble c'est Betts que je mettrais dans le champ, puis Kiki à l'avant-chasse. Puis même affaire, ils ont mis Tommy Edman une coupe de fois au champ centre.
Exact.
Mais Betts reste à l'avant-champ. Edman, c'est pas un joueur de champ, c'est un joueur d'avant-champ.
Ouais, ouais, puis...
Fait que tu sais, je comprends pas trop la décision de Dave Roberts là-dessus, mais il assume, clairement.
Ben parce là, que... il assume, puis écoute, il va de l'avant. D'ailleurs, on salue l'erreur de Tommy Edman. Ça, c'est très vrai. Ouais, mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, je suis d'accord que des fois, la gestion au niveau défensif, c'est quand plus même.
Mais je trouve qu'on dirait, moi, j'ai l'impression que les Dodgers bossent tout sur le talent qu'ils ont. T'sais, on sait que c'est l'équipe, une équipe plus riche.
Mm-hmm.
C'est une équipe qui a le plus de talent brut.
Ouais.
Fait qu'on dirait qu'ils se basent sur le talent brut, mais pas 100%. Sur le autour, tu sais, vraiment, comme l'expérience et tout.
T'as des gars dans l'alignement des Dodgers que tu sais qui sont faits pour cette position-là. Tu sais, t'en parles pas de Will Smith, parce que Will Smith, on le sait, c'est casé depuis longtemps, mais tu sais, Max Muncy, c'est un gars de troisième but.
C'est ça, exact.
Parfois, il va prendre quelques manches au deuxième but, puis c'est là, même au premier but, mais c'est là que tu vois plus d'erreurs. Mais c'est un bon joueur de troisième but. Freddy va pas jouer ailleurs. Freddy va jouer au premier but. Puis Tommy Edman, honnêtement, à part cette bourde-là, là, sur le coup c'est de Bichette, bon c'est un bon joueur de deuxième but. Mais là, c'est ça. Tu sais, t'as Miguel Rojas, que défensivement, il fait job, là. Tu sais, ça a été un bon haricot élite. La sélection défensive est tellement.
C'est pour ça que je t'ai dit, on dit que c'est pas juste sur le talent brut. Puis je pense, encore une fois, tu sais, Miguel Rojas, il est exceptionnel à haricot.
Il y a des mains.
Puis je pense que. En tout cas, dans mon livre à moi, peut-être que je me trompe, puis bon, c'est dans ma mentalité. Ton haricot, s'il est moins bon au bat, on s'en torche un peu.
Ouais.
S'il va faire les jeux, tu sais, comme.
Mais c'est parce qu'il faut que tu crées l'équilibre dans ton aliment.
C'est ton pilier dans l'avant-champ, ton haricot. Fait que s'il frappe pour 200, fait que ton champ droit frappe pour 300, ben. Puis il peut jouer. Tu sais, t'en vas baisse dans le champ. Mais encore une fois, je suis pas Dave Roberts.
Non, mais John Snyder l'a compris parce que les ménages jouent à l'haricot.
Ouais, c'est ça.
T'sais?
Voilà.
En tout cas. Tout ça pour dire.
Bref.
Ouais. Des décisions défensives douteuses un peu. On vous parlait l'épisode dernier, parce que j'ai réécouté d'ailleurs, super épisode, allez réécouter ça. Sur toutes des plateformes de la
communauté. Notre meilleur, on va se le dire.
Il était excellent. On a parlé de Shohei Ohtani comme étant le joueur le plus important de la Ligue de championnats. Ben, en fait, de la finale de championnat de la Ligue nationale.
On n'était pas d'accord avec ça.
On n'était pas d'accord avec ça. Là, on revient à ce qu'il fait présentement, Shohei.
Et là, il mériterait, là.
18 manches, 9 présences sur les buts en 9 présences au bâton.
Ah, mais là, il mériterait à 100%. Là. Je veux dire, là, il mériterait à 100%. Tu sais, hier, il y a une game correcte, là. Je veux dire, il y a juste...
Ordinaire,
je veux dire. Mais les autres matchs, il était super bon, là. Fait que, tu sais, la game qui est 4-4 au d'avant, puis, tu sais... Fait qu'il était super bon, c'est juste que la dernière série, je veux dire, il ne méritait pas. Là, c'est sûr que s'il gagne, puis qu'on continue à même lancer, ben... Je le donnerai à lui, mais comme on sait pas qui va gagner la série mondiale encore une fois. Fait que voilà.
On sait pas. Ça va être des affaires super intéressantes. Rapidement avant de conclure l'émission. C'est quoi les choses que vous allez surveiller dans les prochains matchs? Est-ce quelque chose qui va attirer votre attention un peu plus?
Ben, moi je pense que ce qui va commencer à être surtout intéressant, ça va être ce soir. L'usage des lanceurs. Parce que là.
Ouais, c'est ça
que
j'allais dire moi aussi.
Parce que je pense que Yes Savage, on l'a vu, il a pas lancé beaucoup. Dans les séries. Il sera entre 4 et 5 manches, souvent. Fait que là, t'as eu le match de 18 manches. Pierre Bassett t'a sauvé. Fait que là, ça, peut-être que ce soir, Bassett sera pas là. Varland va être là, parce que Varland est toujours là. Malheureusement, Flaherty aussi. Mais j'ai hâte de voir c'est qui l'autre.
Fait qu'on parle de Flaherty.
Est-ce que...
Je pensais qu'on allait s'en sortir sans parler de Flaherty.
Fallait que je le ramène quand même. Mais j'ai hâte de voir ça va être qui les gars sur lesquels on va mettre plus de pression.
Ben, parenthèse, genre, il y a quand même fait ça. Là.
Non, hier, j'étais pas content de le
genre,
voir. Mais il a fait la job hier.
Sur Mason Flaherty, genre, il a bien fait ça hier.
Alright, c'est correct.
J'y donne. Mais j'aime quand même pas qu'il porte mon numéro. Bref. ouais.
Mais même chose un peu les lanceurs, je pense que le bâton, on l'a dit là, des deux côtés, autant que les Jays ont de la profondeur, puis tout le monde frappe, que ce soit 1 à 9, 4 à 5, peu importe. Dodgers, c'est pile ou face, c'est qui se donne la tape. Oh, pardon, qui donne la tape dans les matchs, fait qu'on sait pas trop qui est bon. Fait que c'est plus difficile à juger, mais je pense que c'est vraiment les lanceurs qui ça va être, faut faire la différence. Surtout, encore une fois, je me répète, la game d'ailleurs que Bassett a sorti, je pense que ça va peut-être faire la tournure des événements dans les lanceurs, les rotations. Si les Jays ont gagné la Série mondiale, je pense que ça va avoir aidé beaucoup au niveau des lanceurs avec les Blue Jays.
Écoute, je vais pas dire on va pas dire les trois dans la même chose, même si ça a été ça un de mes points, mais j'ai hâte de voir, moi, l'approche des grosses têtes, justement. On parlait tout au long du podcast. Mm-hmm. Est-ce que l'attitude, l'approche va changer de ces gros joueurs-là? Vladdy, pas de problème avec lui. On n'a pas besoin de parler de Vladdy, ça va super bien, mais tu sais, les grosses têtes des Dodgers, est-ce qu'ils vont se réveiller? Bon, on sait pas. Tu sais, Shohei, ça va bien en ce moment parce que ben c'est pas mal de ça. Tu sais, Mookie Betts, c'est ce qu'il va avoir un, probablement. Tu sais, c'est tout le temps le genre de gars qui peut avoir
un.
Même affaire pour Freeman. Que je veux pas jinx rien, je touche du bois parce que je veux quand même que ça aille bien pour Toronto, mais on sait jamais. Tu sais, c'est des puissants frappeurs, c'est des puissants joueurs, c'est des vedettes. On sait pas ce qui peut se passer avec ça. Voilà. Place au match numéro 6 qui va avoir lieu ce soir.
5 ce soir.
Ouais, mais pour
cinq,
nous, 5 ce soir.
Mais 6.
Vendredi.
Ce soir, parce que vous allez l'écouter de vendredi.
Ah, oh, ok, je te jure. Oui, oui,
et là, c'est le moment où MF est très fatigué dans l'émission. merci à vous, en passant, d'avoir écouté cet épisode du Dugout. J'espère que vous avez aimé ça. Bon restant de Série mondiale, parce que nous, on va se voir juste la semaine prochaine. La Série mondiale va être terminée ou pas, parce qu'on est vendredi. Par exemple, annonce super cool. Il va y avoir Mark Griffin l'épisode prochain avec nous autres.
Très cool.
Qui va être
très
là. Cool. Mark, qui va être à distance, mais qui va parler un peu de la Série mondiale, la saison des Blue Jays. On a bien hâte d'y parler de tout ça. Mais sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du Dugout. N'oubliez pas d'aller vous abonner à toutes les plateformes de la Commission athlétique, que ce soit Facebook, Spotify, pas Spotify, mais YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Apple, Balado, whatever. Vous savez où vous écoutez vos podcasts. Pas obligé de vous prendre par la main. Ceci étant dit, on se voit la semaine prochaine. Salut.